Dans L'Argent de Poche, on tend le micro à des comédiens et des comédiennes pour qu'ils nous racontent les galères, les débrouilles de leur début. Certes, aujourd'hui, ils sont riches et célèbres.
Oui, enfin pas
mais
tous.
Mais hier, ils ont dû faire 1000 petits boulots avant de rejoindre le haut de l'affiche.
Alors que s'ils avaient eu l'application gratuite Au Max pour moi, ils auraient pu gérer leur argent facilement en réunissant tous leurs comptes et toutes leurs cartes au même endroit. Et ils auraient pu aussi augmenter leur pouvoir d'achat avec du cashback dans les plus grandes enseignes, profiter du zéro frais à l'étranger et payer avec leur téléphone ou leur montre connectée.
Ok, mais quand certains ont commencé, il n'y avait même pas le Bebop.
L'appli Au Max pour moi vous souhaite une bonne écoute de L'Argent de Poche.
Auteur.
L'Argent de Poche.
J'ai plein de projets en ce qui te concerne.
L'Argent de Poche.
Tu veux pas me prêter 1000 balles?
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que tu sais faire?
Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin.
L'Argent de Poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.
Porté au nu pour sa comédie Le Grand Bain en 2018 et tout juste nommé au César du meilleur acteur pour sa prestation Coup de poing dans Bac Nord, Gilles Lellouche est un coureur de fond, un artiste à la notoriété tardive qui a fait ses premières armes en graffant les murs des gymnases municipaux ou plus tard en tournant des clips pour NTM et Pascal Obispo. Dans ce nouvel épisode de L'Argent de Poche, le podcast de Sofilm qui revient sur les petits boulots des grands acteurs, le comédien et réalisateur revient avec nous sur ses jeunes années, commencées dans une banlieue parisienne pas très funky.
L'Argent de Poche.
L'Argent de Poche.
J'ai grandi et je suis né à Savigny-sur-Orge, c'est-à-dire en banlieue parisienne, à une vingtaine de kilomètres de Paris. C'est pas le village le plus funky de France, hein, je vous rassure tout de suite. Et quand j'étais petit, j'ai eu un choc cinématographique. J'ai été voir Star Wars, le premier, La Guerre des Étoiles, en salle. Donc ça me rajeunit pas, parce que je suis vraiment partie des rares maintenant qui ont vu Star Wars en salle. Et je suis tombé la dernière fois sur un bouquin, un livre pour enfants, La Guerre des Étoiles est en livre, et sur la couverture de ce livre, j'avais rajouté avec Gilles Lellouche. Bon, donc j'imagine que derrière, il devait quand même y avoir déjà le souhait de devenir acteur, ce qui était complètement un souhait totalement abstrait, parce que à l'époque, vraiment, j'étais vraiment gamin, quoi. J'avais 5 ans. La rencontre qui a été déterminante pour moi, ça a été en quatrième. J'ai une prof de français qui, au lieu de nous faire réciter platement Molière derrière nos tables, constituait des petites mises en scène devant le tableau noir, et elle créait des groupes comme ça d'élèves qui donc jouaient. C'était des mini-scènes de théâtre, en fait. Et moi, j'étais extrêmement, extrêmement timide à cette époque-là. Et l'idée de me retrouver à jouer comme ça devant tout le monde me paralysait. J'en ai pas dormi de la nuit pendant 2 semaines. Et quand ça a été mon tour, en fait, je me souviens, c'était une scène des Fourberies de Scapin. Et très étonnamment, je connaissais mon texte par cœur, j'avais bossé comme un dingue, et je me suis éclaté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révélation, je me suis senti extrêmement libre, et surtout j'ai vu que la classe, que toute la classe riait, que les filles me regardaient avec un regard inédit, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal ce truc. Et l'année d'après, je suis passé totalement à autre chose, parce que c'était aussi un moment où je dessinais beaucoup, et j'ai complètement oublié l'idée d'être acteur, au profit de devenir peintre. Je voulais devenir peintre, je voulais absolument faire des beaux-arts, etc. Donc en fait, toute mon adolescence, je l'ai passé à dessiner, à taguer aussi, à faire des graffitis. C'était vraiment, on était en plein essor de la culture hip-hop. Et j'étais vraiment dedans. Je sais pas, je devais avoir 15, 16 ans, donc c'était des graffitis un peu pourris sur les murs du gymnase, du collège, ou des centres sportifs du coin, quoi. Donc oui, je me suis fait arrêter 2 fois. Je me suis bien fait déchirer par mes parents. Mais après, les choses sont devenues un tout petit peu plus sérieuses, que j'avais des copains, notamment un qui était très actif, on va dire, qui s'appelait Oeno, qui notamment est celui qui avait graffé à l'époque la station Louvre, qui avait fait grand bruit. Mais donc oui, après, ça a été les hangars de métro, RER, machin, etc. Et puis, en fait, j'ai assez vite lâché l'affaire avec le graffiti et le tag, parce que ça me semblait pas, voilà, j'avais quelque chose de trop pas dangereux mais trop éphémère, enfin trop rapide. Je trouvais que les choses étaient un peu frustrantes, mais encore une fois, hein, le théâtre a vraiment pris la place très rapidement.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
Quand je suis arrivé à Paris, déjà je me sentais perdu comme un provincial, parce que grandir à Fontainebleau ou grandir à Lyon ou ailleurs, c'est la même chose. Donc je savais même pas quelle était la direction à prendre quand je prenais le métro. Vous voyez, ça me semblait tellement grand, Paris tellement vaste. Je savais absolument pas par quel côté prendre la chose, comment attaquer ce métier. Puis quand on arrive au Courflan, on est très vert. Enfin, j'étais vraiment un enfant, quoi. Et, mais c'était une période géniale parce que déjà j'étais émancipé, j'étais seul, j'avais mon petit studio, donc. C'était une période de liberté absolue, de promesses d'avenir, d'angoisse aussi, mais c'était extrêmement joyeux. Puis c'était cette espèce de d'univers dans lequel vous êtes plongé avec des gamins de votre âge qui ont le même rêve. Alors on parle de Tchekhov, de Chéreau, de Scorsese et de Coppola. Et on fume des joints jusqu'à 5h du mat, en buvant du vin rouge, et on va refaire le monde et on va refaire le cinéma. Et puis on a 9 heures de cours par semaine, hein, donc c'est pas on a le temps, hein, de d'avoir beaucoup de discussions et d'avis. C'était vraiment une période géniale, hyper enrichissante, hyper joyeuse. J'ai rencontré plein de gens là-bas, notamment Léa Drucker, qui est devenue une très bonne amie, Laurent Lafitte, mais aussi des gens que je vois toujours et qui sont peut-être moins connus ou reconnus, mais qui sont tout aussi précieux à mes yeux, quoi.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
J'avais évidemment des petits boulots pour payer mes cours et mon loyer, notamment, essentiellement dans la restauration. C'était le truc le plus évident, le plus simple. C'était l'accès le plus rapide à un salaire. J'étais vraiment, 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 vraiment nul. Donc ça se passait toujours assez mal. J'ai commencé en étant dans un resto qui s'appelait El Rancho, qui faisait des spécialités Tex-Mex au Carrousel du Louvre. Voilà, donc tous les midis, on mettait un espèce de tablier orange, violet, jaune, dégueulasse, avec une petite toque sur la tête, et je faisais de la friture de tacos et de voilà, c'était pas super joyeux, mais en même temps je m'en foutais complètement parce que ça durait de midi à 14h et après je fonçais en cours de théâtre, donc j'avais des ailes pour ça. Et puis je me suis retrouvé aussi serveur dans des restaurants plus sérieux. Il y avait des annonces, en fait. Il y avait des annonces au cours Florent qui sollicitaient des jeunes élèves pour être serveurs. Donc, je me suis retrouvé au Minims, serveur au Minims. Alors, le Minims, c'était le petit Maxims. C'était une clientèle de bureau avec des gens extrêmement exigeants. Pas mal de têtes de cons, très impolis, qui prenaient pas grand cas de nous. Je dis nous parce qu'on était plusieurs à faire... donc, on a beaucoup ri parce qu'en fait, on était plusieurs à travailler dans le même restaurant. Donc, ça, je l'ai fait assez longtemps pour gagner des sous. Et puis après, c'était figurant en 16e plan d'un film. Donc on faisait de la figure, on faisait aussi des participations dans le public d'émissions de télé. Donc je me retrouvais à être comme ça, à regarder des débats qui m'intéressaient absolument pas, mais on faisait de la présence et on devait gagner, je sais pas, l'équivalent de 100 francs, c'est-à-dire 17 euros. 17 euros pour rester 5 heures à regarder, assister à l'enregistrement d'une émission de télé dont on se foutait royalement. Mais c'était le seul moyen de gagner un peu d'argent. Moi, j'avais pas de diplôme à part mon bac. Et puis, j'avais pas le temps surtout. Donc, c'était que des petits boulots, vraiment des petits boulots, quoi.
L'argent de poche ?
L'argent de poche.
La vie après les cours Florent, c'était une longue période de chômage et d'ennui. Et d'incertitude surtout. Parce qu'on sait absolument pas. Comment commencer, en fait? Alors, j'avais chopé un agent qui était venu voir probablement spectacle de fin d'année, qui était une caricature de l'agent qui fumait club sur club et qui disait « Mon coco, t'as une pub là, t'as une audition pour ci, t'as une audition pour ça. » Mais en fait, je me retrouvais tout d'un coup avec des mecs de 60 ans, 35, pour des pubs, pour de la lessive, et que des castings qui échouaient, qui marchaient pas du tout. Et puis, c'était très, très déprimant. Ça a duré quand même pas mal de temps. Ça a duré... au moins 2 ans et demi, cette période-là, où vous sortez d'une espèce de période hyper électrique, où il y a une espèce de d'émulsion intellectuelle, il y a quelque chose qui se passe, que vous êtes entouré de gens qui veulent faire exactement la même chose que vous. Donc c'est une sorte de cocon. Et puis quand tout ça s'arrête, parce que moi, j'ai jamais eu l'envie de faire le conservatoire. J'estimais que faire 7 ans d'études pour être acteur, je comprenais pas bien l'idée, mais je la comprends mieux maintenant. Mais à l'époque, je la comprenais pas. Donc je me suis retrouvé un peu tout seul dans mon studio, et là c'est une période vraiment 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 bizarre, parce qu'on est livré à soi-même et que on a l'impression qu'on va jamais y arriver, et que le cinéma ou le théâtre sont des espèces de nébuleuses très, très, très éloignées de vous et que quelle est la porte d'entrée? J'en avais pas la moindre idée. C'était une période un petit peu trouble. Je me souviens avoir fait un voyage avec deux potes. On est parti à Los Angeles. Un soir de cafard, comme ça, on est parti à Los Angeles. On squattait dans des endroits improbables. Enfin, vraiment, on n'avait pas une thune. Donc, c'était vraiment la galère. Et je me souviens être tombé à l'époque, sur Sunset Boulevard. Il y avait une grande affiche, comme ça, de Vanity Fair, avec tous les acteurs de l'époque, qui s'appelaient The Hollywood Issue. Et il y avait genre la prochaine génération, quoi. Sur cette affiche, il y avait probablement Will Smith, Brad Pitt, enfin, tous ceux qui comptent, évidemment, encore aujourd'hui. Et en voyant ces types, je me disais, je suis tellement loin du compte, je suis tellement loin de faire ce métier, je suis tellement loin. Ça m'a vraiment fragilisé et en même temps super motivé quand je suis rentré de ce voyage, parce qu'en même temps, j'avais absolument rien à foutre à Los Angeles. On glandait toute la journée. Je faisais que perdre mon temps, en fait. Et en rentrant, ça a été l'époque de la sortie de La Haine de Mathieu Kassovitz. Et quand j'ai vu La Haine au cinéma, j'ai une révélation, en fait. C'est la première fois que je voyais un film dont j'imaginais les contours. C'est-à-dire que je voyais la mise en scène, je voyais la réalisation, je voyais les plans. C'était dans une culture très hip-hop, donc c'était ma culture aussi. Et pour la première fois, je voyais pas simplement un film, je voyais vraiment la mise en scène. Et ça m'a terriblement motivé, excité. Et du coup, j'ai écrit un court-métrage. J'ai un pote qui voulait faire de la réalisation. Il s'appelle Tristan Rouet, qui était un pote d'enfance, à qui j'ai dit, écoute, tu sais quoi, bougeons notre cul. J'ai écrit ce truc-là. J'ai écrit un truc en 10 heures, quoi. En une espèce d'écriture d'urgence. Une sorte de comédie musicale. En fait, c'est un type qui raccompagne une fille. Il s'embrasse, il est content, la vie est sublime, et tout le monde danse dans Paris, etc. Et jusqu'au moment où il manque de se faire renverser par un taxi qui le ramène tout de suite à la réalité. Moi, tout con. J'ai demandé à Léa Drucker de jouer avec moi. C'était surtout, en fait, pour réaliser, mais c'était surtout pour jouer, en fait, pour m'aider à jouer, quoi. Et j'ai co-réalisé ce court-métrage avec mon pote, Tristan. On a autofinancé cette histoire. On est allé taper 500 francs par-ci, 500 francs par-là. On a réussi à faire un court-métrage en 35 mm à l'époque, en cinémascope. On a eu des grues, on a eu de la figure. On est allé au centre de danse du Marais. On a rencontré un chorégraphe, des jeunes élèves qui nous ont fait une chorégraphie. Enfin, le truc était super. C'était super. C'était vraiment la première expérience professionnelle, non payée, mais professionnelle. Donc, on a fait une projo de ce court-métrage à la Vidéothèque de Paris. Et à l'époque, les gens se bougeaient quoi, pour venir voir les courts-métrages. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de gens, notamment des critiques de Première, Studio, un magazine de l'époque, enfin bref, et des producteurs de pubs et de clips. Et il y a un producteur en particulier qui s'appelle Tanguy Deren, qui a vu notre court-métrage et qui nous a pris et qui nous a fait faire notre premier clip. On a projeté ce court-métrage peut-être au mois d'octobre. Et au mois de décembre, on était à New York et on réalisait notre premier clip payé. Donc c'était voilà, ça a été une révolution dans notre vie. Et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à faire peut-être 25-30 clips en tout. Je suis resté dans le monde du clip pendant 7 ans. On a fait un clip au Canada pour Isabelle Boulay. C'est une daube, mais alors interstellaire. Et on a fait un autre clip aussi où on a vendu qu'on allait faire Braveheart. Et je me suis retrouvé avec mon pote en Écosse, avec 6 mecs, un cheval, 6 mecs, des bikers, avec des kilts. Et là, on avait vendu Braveheart, la guerre, le machin, le bidule. Donc ça, là, on a eu très très chaud. Et le clip, il est très très chaud aussi. Et puis, là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'on a réussi à revenir vers la musique qu'on aimait, notamment le hip-hop. Et on a fait beaucoup de clips pour MC Solar, pour NTM, pour... Lady Lesty, pour Science ou Pacrou, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'était vraiment une époque géniale, quoi, parce que moi, j'avais absolument rien à voir avec le monde du clip vidéo. Et j'ai été propulsé dans ce monde et j'ai adoré faire ça. C'était, à l'époque, il y avait pas mal de moyens pour faire des clips. Donc, chaque clip était un laboratoire. Puis, l'autre point positif, c'est qu'après, j'ai quitté ce producteur, je suis allé dans une autre boîte de prod qui s'appelle toujours Partisan. Et là, j'ai rencontré... des gens géniaux, notamment Alex et Martin, Quentin Dupieux, Michel Gondry. Enfin, il y avait un monde comme ça de créativité, c'était un puits de modernité, de références, d'images, et ça a été des années vraiment géniales, ouais.
L'argent de poche.
L'argent de poche.
J'ai refait, grâce à mon producteur Georges Berman de l'époque, m'a dit, écoute, il faudrait que tu refasses un court-métrage dans lequel tu vas jouer dedans. Donc j'ai fait un deuxième court-métrage avec Léa Drucker, à nouveau, qui s'appelle Pourquoi parce que, et qui a eu des prix à droite à gauche, qui était, on va dire, un peu plus technique que le premier. Forcément, j'avais beaucoup plus d'expérience, on avait fait plein de clips. Et de là, avec ce court-métrage, je suis allé à Cannes, j'ai reçu un prix à Cannes, le prix Grâce à Voix ou je sais plus quoi, bref. Et à Cannes, j'ai rencontré un producteur qui s'appelle toujours, évidemment, Alain Attal, qui à l'époque, lui, produisait aussi des courts-métrages, n'avait pas encore produit le premier long-métrage de Guillaume Canet, mon idole, qui me dit, voilà, j'ai vu tes courts-métrages, j'ai vu tes clips, moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'on travaille ensemble, j'aimerais te produire un long. Donc, évidemment, j'étais comme un dingue. Donc, j'ai écrit un scénario qui a été mon premier film, notre premier film avec Tristan. Et en fait, ce film a été lu en comité de lecture d'une Sofica. Les Sofica, c'est des organismes de crédit qui vous donnent de l'argent pour vos films quand vous avez un peu de mal à les financer. Et dans ce comité de lecture, il y avait un jeune réalisateur qui n'avait pas encore réalisé, qui s'appelait Rémi Besançon, qui a lu le film et qui a trouvé ça super, et qui lui-même était en train de préparer le sien, un film qui s'appelle « Ma vie en l'air ». Et il m'a rencontré parce qu'il savait que j'étais acteur aussi. Et donc, on a fait des essais, machin, et il m'a proposé un des premiers rôles de ce film, « Ma vie en l'air », avec Vincent Elbaz et Marion Cotillard. Et ça a été mon premier grand rôle, entre guillemets, au cinéma, qui fait que j'ai été nommé meilleur espoir au César dans la même foulée. Et là, ma carrière d'acteur est partie, quoi. Ce qui était plutôt pas mal, parce que j'attendais ça depuis 10 ans, et j'avais une trentaine d'années quand c'est arrivé. C'est jamais ça y est. J'aimerais bien pouvoir me dire ça un jour, si je pense que je vivrais plus tranquillement, et en même temps, je crois pas, parce que être établi, que ce soit avoir du succès, que ce soit tout ça, moi je m'en méfie comme de la peste, tout ça c'est des anesthésiens en fait. L'idée qu'on est arrivé, l'idée qu'on est indéboulonnable, je pense que c'est la pire idée du monde et que ça n'existe pas surtout. Qu'il faut toujours tout remettre en question et que vous n'êtes que, alors à part la réalisation où vous êtes quand même un peu maître de ce qui vous arrive, mais quand vous êtes acteur, il n'y a que le désir des autres qui prime, mais qui compte. Donc le désir des autres, on sait à quel point c'est futile et aléatoire. Donc non, loin de moi l'idée de me dire « je suis arrivé et ça y est, et encore moins à 30 ans ». Non, c'était au contraire, c'était hyper enthousiasmant de enfin pouvoir faire le métier que je rêvais de faire, parce que très sincèrement, il y avait très peu de chances d'y arriver en fait. Et même maintenant, avec le recul, je me dis que c'est une loterie absolument folle et que j'ai beaucoup de chance. Alors j'ai beaucoup travaillé probablement, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui n'ont pas cette chance-là. Donc c'est vraiment, 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 c'est assez miraculeux. Ouais.
L'argent de poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.